Parlant de ça, cette semaine, une discussion entre Vez et moi m'amenait à dire à Vez, as-tu remarqué quand le Canadien agit comme équipe locale, l'annonceur maison à Toronto annonce les buts en français. Même s'il n'y a pas de spectateur, on a un annonceur maison qui annonce les buts. Puis c'est intéressant d'entendre ça en français. Mais en tout cas, ça amène une certaine diversité. Et je me disais, ben est-ce que c'est-tu pas Michel Lacroix qu'on a emmené là-bas? On sait que la Ligue nationale est quand même très prudent au niveau de la bulle. On veut qu'il y ait le moins de personnes possible à l'intérieur de ça. Voilà qu'on apprend que l'annonceur maison des Maple Leafs de Toronto, qui est originaire d'Ottawa, et lui s'exprime très bien en français. D'ailleurs, il est notre invité. Il s'appelle Mike Ross et il est au bout du fil. Bon matin, M. Ross.
Bonjour. Pas un nom très, très francophone, hein?
Non, pas vraiment. C'est pas grave. Mais je regardais dans votre pedigree, vous avez fréquenté l'école francophone d'Ottawa. Pourquoi vous avez pris ce chemin-là?
Ben, ma mère est francophone. Alors, sur le côté de ma mère, c'est des Bergerons, les Ouellettes, des fiers franco-ontariens. Et puis, c'était de très jeune âge que j'ai fait mon école tout en français, sauf l'université. Même à l'université, j'ai continué des études du français et de la littérature française. Mais mes parents, c'était des fonctionnaires avec le gouvernement fédéral. Et puis, ils ont toujours cru que le bilinguisme était un gros avantage. Et puis, c'est certainement le cas pour moi dans ma carrière, même en tel qu'annonceur dans les sports professionnels.
Vous l'avez fait à plusieurs niveaux, avec les Lynx d'Ottawa au baseball, le 67 d'Ottawa dans le hockey junior, invité au sénateur d'Ottawa, ensuite championnat du monde junior, et là, depuis 2016, avec les Maple Leafs de Toronto, puis vous avez fait beaucoup de radio à travers ça. Est-ce que vous réussissez à, encore une fois aujourd'hui à mélanger tout ça ensemble, d'être l'annonceur local, puis d'être commentateur à la radio dans la région de Toronto?
Oui, écoute, dans le temps de COVID, on a plus de diffusion faite de la maison. Puis, je dois dire que la technologie dans mes 25 ans et plus en radio a changé beaucoup. Le fait que je puisse faire mon émission de nouvelles, moi, le matin, de la maison, puis ensuite me rendre à l'aréna pour faire les matchs du tournoi des séries, ça marche très bien. En temps normal, je fais mon émission de radio, de télévision le matin, et puis plus tard en journée, je me rends à l'aréna. Mais avec les séries ici, ça voulait dire que je devais couper mes responsabilités un petit peu par rapport à la télévision, mais mon émission de radio continue à tous les matins.
Mais l'annonceur maison des Leafs qui fait une émission de radio le matin, il doit pas être toujours objectif quand il parle de hockey?
Ça, c'est le fun, hein? Moi, je fais les nouvelles, je fais pas les sports.
Ah, OK.
OK. Oui. J'évite toutes les controverses.
Ah, mais ben, c'est ça. Ben, parce que, je lisais, vous êtes un fan des Maple Leafs depuis votre très jeune enfance.
Oui, mon grand-père, c'était vraiment la personne qui m'a introduit au hockey. Moi, mes parents, ils aiment bien le hockey, ils aiment bien les sports, mais c'est pas des gros fans. Mon grand-père, lui, c'était un joueur de hockey, c'est un fanatique des sports, puis c'est vraiment lui qui m'a rentré dans les sports, qui m'a donné mon amour des sports, puis certainement des Maple Leafs aussi.
Parce qu'à Ottawa, quand vous étiez jeune, est-ce que les gens prenaient plus pour le Canadien? C'est plus proche de Montréal que Toronto? Parce qu'il n'y a pas d'équipe à Ottawa.
C'était pas mal, 50-50. Okay. Il y avait aussi certains petits coins de partisans des Bruins, de Détroit aussi. C'était vraiment divisé entre les six originaux, mais c'était évidemment plus fort Toronto-Montréal. Et puis pour moi, pour mon grand-père, ben lui, c'était les Maple Leafs. Puis le samedi soir, ben j'étais chez lui. On habitait à une maison, un et l'autre. Mm-hmm. Alors, moi, je me rendais chez lui le samedi soir, puis on regardait la soirée du hockey ou Hockey Night in Canada, puis on regardait les Maple Leafs tous les samedis soirs.
Et ce qui est l'avantage de prendre pour les Maple Leafs depuis longtemps, c'est que ça vous dérange moins quand ils perdent encore parce qu'ils ont perdu tout le temps, tu sais. Ça fait tellement longtemps que ça...
Écoute, il y a certaines habitudes qu'on veut absolument briser, hein. C'est difficile de sortir des séries, puis cette année, encore une fois, difficile de sortir de la façon qu'on l'a fait, mais c'est, je dois dire, depuis que je suis avec les Maple Leafs depuis 2016 comme annonceur, quatre saisons qu'on fait les séries, puis c'est un temps pas mal excitant. On a des bons jeunes, on a des vedettes. C'est un temps excitant d'être partisan des Maple Leafs.
Avez-vous le temps, quand vous êtes annonceur maison, parlons du temps régulier, donc de vos les années passées. Oui. Avez-vous le meilleur siège dans l'aréna? Est-ce que vous avez le temps de regarder le match? Parce que vous êtes clairement un partisan puis un fan, puis vous aimez le sport en tant que tel. Avez-vous le temps de regarder ça puis de bien l'apprécier?
Oui, oh, absolument. Quand le match se joue, je veux dire, il faut absolument vraiment suivre la partie puis être conscient de ce qui se passe. Puis ça peut être difficile des fois de pas être distrait par le moment. Moi, je pense que pour la plupart des annonceurs de hockey, la plus grosse peur, c'est quand ça vient le temps là, d'annoncer la dernière minute de jeu d'une période, puis t'es vraiment dans le game, puis tu suis le jeu un petit peu trop près, okay. Puis là, tout d'un coup, tu regardes l'écran, puis hop, on est à une minute et une seconde. Fait que, oui, ça peut être difficile des fois de séparer être un fan puis être l'annonceur, mais moi, je suis assis en haut de l'aréna, par-dessus la galerie de presse.
Ah, vous êtes pas
les Maple Leafs. Non. Les Maple Leafs, on est une des équipes. On est à peu près presque 50% de la ligue. Les annonceurs sont en haut dans la galerie de presse ou par-dessus la galerie de presse. Mm-hmm. Et puis, pour les Maple Leafs, ça a toujours été le cas. Ils n'ont jamais eu un annonceur au niveau de la glace à Toronto.
Est-ce que, et là, on communique avec vous, quoi, par écrit ou il y a quelqu'un qui vous avise, bon, un, deux, ou vous devez l'observer de la hauteur, de voir qui a le 2 minutes et quelle est la punition exactement?
Moi, j'ai un téléphone dans ma loge et puis les punitions, on m'appelle de la boîte de punition avec l'information. Okay. Les buts sont passés de l'arbitre au compteur officiel qui est dans la boîte. Ça, c'est ensuite passé pour une revue du vidéo pour confirmer qu'on a les bons noms, les bons noms pour les assists, les bons noms pour le compteur de buts. Et puis ensuite, on m'appelle avec cette information-là, puis je peux l'annoncer. Alors, c'est tout fait par téléphone.
Avez-vous des règles de ton de voix ou d'enthousiasme? Ça veut dire, si les Maple Leafs scorent un gros but, là, avez-vous le droit de le crier quasiment à la force que vous voulez? Et
absolument.
Ah oui?
Absolument. C'est vraiment, là, on accuse souvent des annonceurs à la radio puis à la télévision maintenant d'être des homers, hein, des trop fans, et puis il y a des gens qui se plaignent des fois qu'on devrait que ces annonceurs-là devraient être plus neutres. Moi, c'est jamais quelque chose qu'on m'a rapproché, ni aucun autre annonceur maison dans les sports professionnels. Nous, on est là pour deux choses. Numéro un, pour apporter de l'information aux fans qui sont dans l'aréna. Et puis deuxièmement, on est aussi un peu là pour être des supporters vocaux et puis d'amener de l'enthousiasme.
Entertainment pour un peu, là. Il y a de l'entertainment là-dedans, là.
Absolument, absolument. Et puis, il y en a, écoute, des places comme Montréal puis Toronto, les fans, là, ils connaissent le hockey. Ils n'ont pas besoin de se faire taper sa tête puis se faire dire quand c'est le temps de crier puis quand c'est le temps d'être enthousiaste. Puis il y a d'autres villes que c'est vrai que les annonceurs doivent être encore plus on puis faire plus de show que quelqu'un comme Michel Lacroix ou quelqu'un comme moi. Tu sais, on pense à des places comme Washington, Nashville par exemple. Eux autres, les annonceurs sont beaucoup plus forts, beaucoup plus animés, mais il y a quand même encore un peu d'éducation à faire au niveau des fans là-bas. Pour des places comme Montréal, pour des places comme les Rangers puis Toronto, c'est pas nécessaire.
Est-ce que de l'autre côté, quand l'équipe adverse marque, est-ce que on doit prendre le temps d'y penser pour dire ok là, je dois avoir un ton beaucoup plus neutre, peu enthousiaste. Je broyerai pas là, mais on va faire ça de monocorde, mettons.
Oui, 100%. Puis c'est quelque chose que pour moi, je diminue mon ton. Je donne à ce moment-là simplement là. On c'est un peu comme les émissions de police là, des années 50. Là. Mm-hmm. On donne les faits puis seulement les faits.
Mm-hmm.
Il y a, Il n'y a pas d'émotion là-dedans. On donne l'information, puis c'est tout.
Mais comme l'ancien annonceur maison des livres dans les années 70, c'était très monocorde, même quand les livres se marquaient. Là. Okay.
Un peu comme les Red Sox.
Toronto's goals.
Toronto's goals. Scored by number 17, Wendell Clark. Assisted by number 93, Doug Gilmore.
And
number 10. Ça, c'était Paul Maurice. S'il avait absolument son style, ça, c'est une des voix que moi, j'ai connues comme jeune. Uh-huh. C'est une des grandes influences pour moi comme annonceur. Lui, certainement Claude Mouton avec les Canadiens, ouais. Bob Shepard avec les Yankees. Ils ont chacun leur style. Mais oui, faut le dire, dans ce temps-là, c'était, je dirais, les annonceurs en général, c'était moins cheerleader, puis vraiment, c'était plutôt comme quelqu'un qui donnait des nouvelles ou de l'information simplement dans l'aréna.
C'est qui, pour Mike Ross, le nom le plus... Quand il score, yes sir, lui, là, j'aime ça. Tu sais, il y a des noms qui sont le fun à garocher. Là. Ouais. Vous avez nommé des anciens joueurs des livres, mais là, depuis votre travail de 2016, c'est qui que vous aimez à nommer, par exemple, lorsqu'il y a un but?
Ben, moi, j'aime beaucoup Austin Matthews. Puis l'autre, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir depuis 2016 puis qui me disent, ils aiment beaucoup quand j'annonce William Nylander. Je fais un allongement de Nylander, puis les gens, je sais pas pourquoi, ils aiment bien quand j'annonce celui-là. Puis là, moi, ce que j'aime avec ce que je fais maintenant pendant les séries, c'est je suis l'annonceur maison pour toutes sortes d'équipes qui, d'habitude, c'est très monotone quand j'annonce les buts de Montréal ou les buts de Philadelphie. Mais là, j'ai l'habileté puis j'ai la permission de vraiment mettre plus d'émotion. Et puis, il y a des noms qui sont un petit peu le fun à dire, comme Kotkaniemi, là. Uh-huh. C'est le fun de le dire ça. C'est un beau nom, quand même.
Y a-t-il des noms qui vous ont donné particulièrement de la misère avec les noms européens?
Ouais, la prononciation, hein?
Ben, ça a vraiment été au niveau des championnats juniors mondial. Quand j'ai fait la partie avec les Russes, Pavel Buchnevich, qui joue pour les Rangers maintenant, dans ce temps-là, écoute, je connaissais pas son nom, et puis je l'annonçais, mais moi, il y a un accent qui doit être mis sur Buchnevich. Mm-hmm. C'est pas Buchnevich. C'est Buchnevich. Et puis, ça a l'air que je mettais pas l'accent à la bonne place.
Okay.
Puis, le directeur des communications de l'équipe de la Russie, il rentre dans ma loge à toute vitesse, puis il me corrigeait, puis on me criait, puis c'était Buchnevich, Buchnevich. Mais il m'a tellement tapoché sa tête avec ça, là, que quand je l'ai annoncé pour les Rangers la première fois, il y a une journaliste qui est russe qui était au match, qui est venue me voir, puis elle a dit « Hey, bravo pour ta prononciation sur Buchnevich. Tu as vraiment bien fait ça. »
Oui, c'est très hot, ça.
Oui, il y en a un qui m'avait donné de misère. J'avais été annonceur maison au Peps pour la Coupe Air Canada.
Midget 3, là.
Midget 3, oui. Puis il y avait Tony Urquhart qui jouait pour je me souviens plus quelle équipe. Puis à un moment donné, il prend une punition. Puis là, je vois le nom, puis j'ai fait « Oh boy ». Je me suis tiré le coup et je lui ai demandé « Comment tu prononces ton nom? »
Ah, ouais, c'est ça.
Oui, c'est... Il y en a, je disais justement à mon épouse hier soir, il y a un joueur pour la Caroline en ce moment. Son dernier nom, ça se prononce Necis. Ouais. Mais je crois que ça s'appelle N-E-C-A-S ou C-A-S.
Ouais.
Puis j'ai dit, regarde, j'ai dit N-E-C-A-S. J'ai dit, comment tu prononces ça? Puis elle me le dit, puis j'ai dit, non. Non, non, non. C'est Natchez. Hey, j'ai dit, si t'es recru là, comme annonceur, là, c'est tout un challenge.
C'est du travail. Qu'est-ce que c'est maintenant dans la situation actuelle? Vous êtes annonceur maison, mais il y a 12 gars qui vous écoutent à peine.
Vous faites place.
Un peu pour la télé. Oui, mais pour la télé, ils nous le présentent pas tout le temps. Ils aiment ça parler par-dessus, en tout cas sur les productions québécoises. Ça, c'est clair. Ça change votre travail, bien sûr, de faire ça devant personne.
Au début, les premiers matchs d'exhibition qu'on a fait il y a quelques semaines, oui, ça faisait bizarre. Maintenant, Il y a tellement plus de production dans le match qu'on fait dans l'aréna. Il y a tellement plus d'audio qu'on incorpore dans la production que c'est moins bizarre. Ça fait moins bizarre. Okay. Et puis, ce qui est vraiment le fun, c'est au niveau du DJ, au niveau de la directrice de la présentation de match, de production de match, c'est tous mes collègues des Maple Leafs. Alors, c'est très confortable. C'est des gens que je connais. On connaît, c'est un peu comme un joueur de centre avec son ailier. Je sais où est-ce qu'il s'en va, lui. Je sais où est-ce que je peux mettre la rondelle, puis il va être là pour recevoir la passe. Mais pour nous autres, c'est la même chose. On connaît nos moves, puis c'était bizarre les premiers matchs, mais maintenant, on sent un peu que les joueurs aiment ça. J'entends aussi souvent des joueurs qui réagissent quand j'annonce un but, ce qui fait que notre but, c'était toujours d'apporter un petit peu de la normale au match. C'est de mettre les joueurs dans une situation où on peut leur donner un sens de normal, de normalité de la game qu'ils sont habitués en saison régulière le plus possible. Puis quand j'entends des joueurs réagir comme ça, je dis, bon, ben on fait bien notre travail.
La game de 8 périodes, là, étais-tu écœuré? Là, t'avais rien à annoncer ou presque. Il y a presque pas eu de punition. Il y a évidemment pas eu de but. La soirée a dû être longue. La journée a dû être longue en tabarouette.
Mais tu sais quoi? On est deux annonceurs.
OK.
La Ligue a engagé deux annonceurs. Alors, parce qu'il y a eu des jours qu'on a eu trois matchs par jour, puis ça fait des journées de 14-15 heures, là.
Ouais.
Fait que moi, l'annonceur des Marlies de Toronto, c'est mon backup.
OK.
Puis, alors ce soir-là, moi, je coachais ma petite équipe de baseball à Pickering, à l'est de Toronto. C'était pas mon soir pour travailler. Et puis, nous autres, après notre match, il était rendu 9h, 9h15, je pense, puis on partait du parc, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé, « Hey, t'as-tu poigné le pointage aujourd'hui? » J'ai dit, « Non, je travaille pas, j'ai même pas porté attention. » J'ai dit, « Moi, je suis venu ici, je coachais les jeunes, puis là, il y a quelqu'un à côté qui dit, « C'est pas fini encore. » J'ai dit, « Quoi? » Ça a commencé à 3h, ce game-là. De quoi tu parles? Ça continue. Non, ils sont rendus dans la cinquième période de prolongation. J'ai dit, oh my God. Fait que, hey, 6h30 presque qu'ils ont joué. Puis, comme annonceur, c'est qu'il n'y a rien à faire.
Il ouais,
n'y a littéralement rien à faire. Tu accueilles les équipes, tu annonces le sommaire à la fin de la période, puis tu attends une punition. Ou bien le but.
En supplémentaire, on s'entend qu'en plus des punitions, il n'y en a eu rien qu'une en cinq périodes.
Ben, c'est ça. Fait que, non, écoute, Simon Bennett, c'est mon annonceur, mon partenaire, puis
okay.
il a gagné sa paye ce jour-là.
En temps normal, justement, financièrement, sans rentrer dans les détails, est-ce que quelqu'un peut vivre juste de ça, d'être annonceur maison d'une équipe professionnelle?
Non, c'est un job à vraiment à temps partiel, okay. Puis tu fais ça parce que t'adores ça, tu fais ça. Ben, dans notre cas, je veux dire, pour quelqu'un comme moi, comme Michel, alors, écoute, t'es annonceur maison des Maple Leafs de Toronto, du Canadien de Montréal, t'es sur la plus grosse scène du hockey au monde, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, c'est quelque chose que, tu sais, si on est honnête, on travaille pas pour rien, mais on serait sans doute prêt à le faire pour rien parce que c'est les Canadiens, c'est les Maple Leafs, c'est les Rangers de New York.
Oui, parce que t'es dans une loge, t'as sûrement un stationnement réservé, donc t'as des avantages.
Écoute, on a un bon rabais sur notre stationnement, mais le centre-ville de Toronto, il n'y a pas grand stationnement de réservé pour l'annonceur maison. Non. Mais on a un bon rabais, on stationne au Temple de la Renommée, puis honnêtement, là, Il y a beaucoup de raisons puis beaucoup de plaisir à être l'annonceur des Maple Leafs, mais le stationnement, ça n'est pas un.
OK. Hey, j'ai une dernière question. Ben, là, c'est personnel pour moi, là, quasiment. C'est que je tombe en vacances là, pour deux semaines. Je fais beaucoup de moto, moi, puis d'habitude, aux États-Unis, là, je me paye des trips de sport pas mal. Évidemment, on comprend que les frontières sont fermées. Puis on en parlait plus tôt dans l'émission. Je disais à mes collègues, là, j'ai l'intention de partir par là en pointant l'ouest. J'avais peut-être l'intention d'aller dans le coin de Toronto. Avec le COVID actuellement, est-ce que tu me conseilles, je peux-tu avoir du fun en ville à Toronto, là, les restos, les bars, ou si c'est le désert, puis c'est plate, puis...
Non, non, non. Les patios sont ouverts, les musées sont ouverts, l'aquarium, le temple de la renommée est ouvert. Oui, il y a bien des choses à faire, puis amène ton masque. Tu vas être correct, amène ton masque, il y a bien des choses à faire.
Bon, ben je vais aller voir ça.
Hey, Mike, juste avant de te laisser aller, est-ce que l'histoire de Claude Julien a fait beaucoup parler à Toronto aujourd'hui? Pas aujourd'hui?
Oui, absolument. Et puis, c'est certain que ça nous a pris beaucoup par surprise. Mm-hmm. Et puis, Claude, c'est un gars que j'ai suivi sa carrière. J'ai vu sa carrière à Montréal, à Boston. Alors, j'espère certainement que tout va mieux aller pour lui. Puis, mm-hmm. C'est inquiétant. C'est inquiétant quand ça arrive, mais... Ouais. On doit dire c'est le sport professionnel, mais ils sont aussi entourés par des médecins, mm-hmm. puis des professionnels de la santé. Fait que je lui souhaite un prompt rétablissement, puis que ça va mieux aller.
Ben justement, ça a popé durant l'entrevue. Là. Okay. On a appris que Claude Julien va retourner à Montréal aujourd'hui. Il s'est fait installer une endoprothèse dans une artère coronaire jeudi, donc hier. Et les médecins s'attendent à un rétablissement complet.
En gros,
on lui a débouché une artère.
On a mis un spring, c'est ça?
Ouais.
OK. Bon, ben voilà.
Alors,
les
dernières. Ça va bien se passer pour Claude Julien.
Mike Ross, merci beaucoup d'avoir pris ces minutes avec nous. C'est très, très apprécié. Ouais. Puis je suis sûr que les gens de Québec ont adoré vous entendre raconter ces anecdotes-là. Puis on va vous suivre. Puis on va être plus attentifs lors de l'annonce des buts des prochains matchs. C'est vous qui faites le match du Canadien cet après-midi?
Je fais tous les matchs des Canadiens. Oui.
Ah, oui. En français. Bien oui.
Ben, oui.
Hey, merci, Mike. À bientôt.
Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
Bye.
Au revoir.
Mike Ross, il est l'annonceur local des Maple Leafs de Toronto. Il fait tous les matchs du Canadien parce que il fait la version francophone en même temps. C'était fort intéressant. Mm-hmm. Moi, je savais qu'il était que la plupart des annonceurs maintenant étaient sur la galerie de presse. Ils ont voulu diminuer. La Ligue nationale a voulu parce que l'annonceur maison, je pense qu'il est pas un employé de la Ligue nationale, mais davantage un employé de l'équipe. Mm-hmm. Et on voulait que les officiels mineurs, comme on les appelle, donc chronométreurs, marqueurs officiels, donc c'est l'équipe qui est en bas est pas influencée, mettons, s'il y a quelque chose, mm-hmm. par quelqu'un de l'extérieur. Puis c'est pour ça que la moitié des équipes avaient mis l'annonceur maison un peu à l'écart. Ouais.
Pierre, en fouillant, je cherchais quelques informations sur Mike pour préparer l'entrevue. Puis je suis tombé sur des vidéos. Je pense que sur le site des livres, si vous allez pouvoir trouver ça, c'est des petites capsule de 5-6 minutes sur plein d'aspects qui entourent un match de hockey. Puis, entre autres, la production, tu sais, c'est un show de TV, en fait, sur l'écran géant au-dessus de la glace. Et il y a un producteur, il y a un responsable vidéo, il y a un aiguilleur, il y a quelqu'un qui s'occupe du son, il y a l'organisme qui est mêlé à tout ça, et l'annonceur maison, évidemment. C'est vraiment intéressant. Il montre aussi une autre capsule, comment il transforme l'aréna après un match de basket pour le préparer pour un match de hockey le lendemain.
Puis ça va vite, hein?
Ça va vite en tabarouette. Ah, oui? C'est réglé au quart de tour.
En fouillant rapidement, on voit
tout. Je pense que oui, facile à trouver. Bon, ouais.
Moi, je tombe tout le temps sur de la porn. Oui.
Ouais, c'est ça l'affaire. Hein? Est-ce que je comprends que tout le monde qui est sur la galerie de presse n'est pas dans la bulle à ce moment-là? Parce que lui, il coachait quand même ses enfants au baseball. Puis j'ai l'impression que tous ceux qui se retrouvent, parce qu'ils ne peuvent pas côtoyer les joueurs, c'est impossible.
Non, moi, ce que j'ai su, là, c'est que ceux que vous voyez de la galerie de presse sont pas considérés dans la bulle et n'ont pas accès à nulle part ailleurs dans l'aréna. C'est pour ça que vous voyez,
ils sont pas mêlés aux joueurs,
ça a l'air d'être des selfies, c'est ça. Et c'est pour ça que, tu sais, comme hier, quand il y a eu un point de presse, là, j'ai vu juste quelques images en rafale tantôt, là, mais il y avait Weber et Bergevin. Ouais. Vous remarquez qu'ils ont comme le regard vide puis ils savent pas où regarder. C'est qu'il y a personne dans la salle.
Ouais.
C'est ça. Ils ont l'audio des questions des journalistes qui sont ailleurs, mais ils ont pas le, y a pas de contact direct. Ouais. Ah non, ils sont bien sévères, c'est la bulle. Bon, ben,
c'est une pause, oui.
Vous êtes dans Dupont le matin?